Bonsoir à tous. Alors, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Je suis le grand fautif. Je suis le directeur de cette bibliothèque. Donc, encore une fois, veuillez m'excuser d'être arrivé en retard. C'est d'autant plus inexcusable que je suis, moi et mes collègues, extrêmement heureux que ce nouveau cycle soit inauguré, en quelque sorte, aujourd'hui. C'est un pari un petit peu risqué, hein, que d'organiser des rencontres avec de la parole, avec éventuellement des échanges, au milieu non seulement des livres, mais des lecteurs qui en général viennent à la BPI pour étudier, qui souvent nous réclament le silence, le recueillement. Mais nous pensons, quand je dis nous, c'est les bibliothèques, mes collègues bibliothécaires, moi-même, nous pensons qu'aujourd'hui, une bibliothèque, surtout une bibliothèque comme celle-ci, qui fut dès l'origine, dès 1977, une bibliothèque pilote, hein, et qui a contribué à ce que le réseau des bibliothèques françaises de lecture publique se développe, une bibliothèque qui a montré la voie. Il est important qu'une bibliothèque comme celle-ci offre à son public non seulement des livres, ce qui est la moindre des choses, mais également une vie culturelle, intellectuelle. Moi, je ne conçois pas personnellement, j'étais directeur des bibliothèques de Lyon pendant une vingtaine d'années avant d'être à la BPI, et donc j'ai l'expérience de ce qu'on appelle les bibliothèques publiques, les bibliothèques municipales. Je ne conçois pas une bibliothèque qui ne soit pas en même temps un lieu vraiment culturel et un lieu d'échange, d'autant plus que la BPI est au sein d'un établissement absolument extraordinaire. Je pense qu'on en sera tous d'accord, le Centre Pompidou, où de multiples activités culturelles en tout genre ont lieu. Et d'ailleurs, l'idée fondatrice du Centre Pompidou et de la BPI en 77, dans les années 70, c'était bien de faire en sorte que les différentes formes d'expression trouvent un terrain d'accueil, un lieu d'accueil et d'échange au sein de ce magnifique bâtiment. D'où l'idée de réintroduire progressivement, ici, parmi les livres, des temps d'échange. Mettre en œuvre ce pari risqué, encore une fois, encore fallait-il un partenaire à la hauteur, un partenaire passionné par... En l'occurrence, la littérature. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que, étant précédemment à Lyon, en province, voyant de loin le Centre Pompidou et la BPI, je trouvais, et je faisais sans doute en partie erreur, mais après tout, c'est l'image que donnait le Centre Pompidou, je trouvais que la littérature y était apparemment relativement peu présente, ce qui est faux parce que, elle y est présente à travers les livres d'abord, et puis elle y est présente à travers des rencontres que la BPI organise depuis longtemps, depuis toujours, dans le Centre Pompidou, mais pas à la BPI elle-même, hein, c'est-à-dire dans les salles du Centre Pompidou, ce qui fait que cette activité littéraire autour de la littérature n'apparaissait pas suffisamment à mon goût et au goût de beaucoup de bibliothécaires ou de gens du livre comme l'émanation d'une bibliothèque. D'où l'idée de réintégrer la bibliothèque. Donc, pour relever ce défi, il fallait avoir un partenaire à la hauteur. Et je savais, moi qui suis, je l'ai dit, lyonnais, que l'ancienne chambérienne, non, habitante de Chambéry, qui a fondé... qui a dirigé, en tout cas qui était l'âme pendant longtemps, hein. Vous admettrez le mot âme, hein. Vous accepterez l'âme du Festival du Premier Roman, nationalement connu et même au-delà, mais qui en tout cas en Rhône-Alpes et à Lyon a joué un rôle extrêmement important dans le développement de l'intérêt du public pour la création littéraire, pour la littérature en général. Il est évident que, sachant que vous étiez maintenant à Paris, que vous dirigiez la Maison des Écrivains, nous étions certains d'avoir avec vous un partenaire vraiment d'exception et surtout passionné, hein. Donc merci de relever ce défi. Donc, c'est la première édition. J'espère qu'elle va faire boule de neige, hein, que progressivement, il y aura de plus en plus de public avec cette idée que la BPI doit non seulement servir le public, bien sûr, mais également, et là je pense aux écrivains, apparaître aux yeux des écrivains comme étant, je ne dirais pas leur maison, parce qu'il y en a d'autres, il y a la vôtre, enfin, il y a votre structure, bien évidemment. Mais il faut que les créateurs dans le domaine littéraire sachent que la BPI est un lieu qui sera toujours ravi de les accueillir. Nous avons un projet d'établissement pour les 2, 3, 4 années qui viennent, et l'un de nos objectifs majeurs sera de créer un espace mieux organisé que celui-ci, qui sera dans la bibliothèque, mais qui, disons, respectera toutes les normes de confort, d'écoute et d'échange, avec l'idée de faire en sorte que, sinon chaque jour, en fait, très souvent, dans la semaine, les écrivains, les créateurs puissent venir, soit face à un public, soit entre eux, pour échanger autour de la littérature, de telle manière que cette bibliothèque devienne, en quelque sorte, une maison des écrivains au cœur de Paris. Voilà, donc j'ai été trop long, veuillez m'en excuser, mais merci à tous d'être là, et merci, bien sûr, aux deux écrivains qui, eux aussi, ont accepté de relever le défi. Donc, merci beaucoup, et je laisserai Sylvie Goutte-Baron les présenter.
Merci beaucoup Patrick Bazin, je crois que la réciproque est vraie, c'est parce que vous êtes là que je suis venue vous voir pour vous demander si nous pouvions nous associer pour organiser ce cycle qui est né d'évidence à la Maison des écrivains et de la littérature, puisque c'est une association d'écrivains, et ce cycle intitulé « En échange », vous avez employé ce terme « échange » qui est fondamental, je crois, cette complicité qui les unit les uns avec les autres, nous a fondés à organiser ce cycle. D'évidence également, notre première invitée qui a choisi son auteur, c'était Anne-Marie Garat, qui est l'auteur que vous connaissez. Elle a enseigné la photographie, la littérature, le cinéma, dans l'ordre que vous voulez. Elle a fait exploser le genre romanesque et elle a remis à son honneur en lançant un grand cycle en 2006 avec Dans la main du diable, qui s'est achevé en 2010, publié toujours chez Actes Sud avec Pense à demain. Auparavant, en 2008, il y avait eu L'enfant des ténèbres, donc trois énormes morceaux qui retracent l'histoire européenne. Anne-Marie Garat avait reçu le prix Femina avec Aden. C'était en 1992, Anne-Marie, je crois. Tu te souviens plus ? Voilà. Et Anne-Marie Garat a été la présidente de la Maison des écrivains et de la littérature, une présidente qui compte, qui a compté et qui compte encore. Et c'est pourquoi, lorsque nous lui avons téléphoné pour lui demander si elle acceptait de lancer ce cycle, elle a d'autant plus accepté que ce sont nos 25 ans, et je trouvais que c'était très heureux que ce soit elle qui commence. Et tu as choisi, Anne-Marie, de présenter Bertrand Leclerc. Voilà, donc on te remercie beaucoup. Et puisque le jeu veut que ce soit toi qui présente l'auteur que tu as choisi, je te cède la parole et je remercie beaucoup toute l'équipe de la BPI de nous accueillir. Merci.
Bonsoir. Justement, vous l'évoquiez, qu'il y a quelque chose de paradoxal. Nous sommes dans le temple du livre, dans le silence, qui est en fait peuplé, c'est quelque chose de sourd. Mais en fait, il y a une rumeur, vous le savez bien, de tous les livres ici enfermés. Et la parole va peut-être surgir là de manière un peu incongrue, parce que c'est pas souvent dans les bibliothèques qu'on porte la voix plus haut. Nous allons la porter pendant une heure en inaugurant donc ce cycle. C'est un peu intimidant, mais en même temps, allons-y, on se jette à l'eau, dans les rouleaux du temps d'ailleurs, dans l'océan du livre, avec Bertrand Leclerc. Et je crois que quand j'ai été invitée à inaugurer ce cycle, je ne pouvais pas tout de suite, la première idée qui m'est venue, c'est d'inviter cet écrivain ami, et qui est aussi un écrivain de combat, et qui dans son œuvre, qu'elle soit de fiction ou d'essayiste, poursuit ce dialogue, déjà cet échange en lui-même et avec lui-même du travail de la lecture et de l'écriture, de ce que nous font les livres et de l'expérience irremplaçable et incomparable à tout autre art que produit la littérature en nous. Et donc je suis heureuse et honorée de vous présenter Bertrand Leclerc, qui a une longue histoire, qui a plusieurs vies de chroniqueur de la vie équine, mais chroniqueur des livres aussi à la Quinzaine littéraire en tant que critique et aux Inrecuptibles, qui est l'auteur aussi d'œuvres radiophoniques. Donc vous voyez, une œuvre qui, sous des métrages et des formats et des et des langages et des discours différents travaillent cette question qui nous importe tant aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus sur le contexte actuel qui est de catastrophe. Nous ne sommes plus à l'ère du soupçon, mais peut-être à l'ère du doute même. Les temps sont douteux, les temps sont critiques. Et dans une société, Bertrand en a assez parlé, qui fait un culte du profit, du rapport, des cotations, quelles qu'elles soient, nous allons parler, nous, d'une denrée, d'une matière première, n'est-ce pas ici, dont le prix est hors de prix, d'un prix exorbitant qui ne peut pas être négocié, mais quand même qui peut être échangé et converti. Et je crois qu'en échange, ce titre-là, de cette formule-là trouvée ici, je crois qu'il faut que nous disions que c'est la belle formule. C'est celle de ce commerce des hommes et de ce commerce dans la langue dont Bertrand témoigne. Et encore une fois, je suis heureuse de l'accueillir pour ça ce soir. Et alors, à l'occasion justement de la publication de ce dernier livre qui nous déboule dans le contexte que je suis en train de dire, de faillite en fait, et de menaces, et du livre bientôt TVA-isé comme un produit de consommation, de vulgaire consommation, n'est-ce pas ? Tout ce qui nous remue aujourd'hui aussi, avec tout ce qu'on dit de les mutations technologiques, la fluidité, la volatilité des écrans tactiles, etc., qui va changer les pratiques de lecture et cette pratique très très ancienne. Enfin, aujourd'hui, elle est dans l'ère du Gutenberg, du livre, de l'écrit, hein, de qu'est-ce qui va se passer pour nous et de notre capacité à transmettre de manière générationnelle cette aptitude à lire. Et je crois que le livre de Bertrand, pour le coup, est vraiment inaugural pour nous aussi ce soir. Voilà. Donc je me tourne vers lui maintenant parce que j'ai des questions à lui poser, mais je ne sais pas s'il a envie de prendre la parole tout de suite. Moi, nous avons eu l'idée tous les deux de commencer par lire un petit extrait de chacun de nos livres. Hein, et si vous voulez bien, on commence par là. On commence comme ça, Bertrand ? Tu commences, je commence ? Comment on fait ? Tu commences ? Commençons.
Bonjour. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour l'invitation, pour ces mots, pour l'amitié qui court depuis longtemps maintenant. Et j'ai choisi, moi, de lire le livre qui, pour moi, a été la rencontre avec Anne-Marie Garra dans La Pente du Toit, qui est un récit, qui n'est pas un roman, un récit de deuil, et qui est paru en 1998, et qui bouleverse, je crois, la notion même de récit de deuil. Donc je vous cite je vous lis un passage relativement bref, qui, je crois, donne à entendre la façon dont le récit trame la réalité vécue, la représentation, et interroge cette question de la représentation jusque dans le deuil. Jusqu'ici, écrivant des romans, l'emprunt à la réalité concernant ma vie privée, ma mémoire, par décret d'écrivain, pouvait s'accommoder. Suffisamment pour déguiser, maquiller, et pour finir, rendre inconnaissable, illisible, au lecteur sans doute, surtout à moi-même, les ruses et camouflages du maquis fictionnel. Voyant mourir mon père et ma sœur, j'ai désespéré du roman, de la fiction littéraire, mais j'ai honni encore plus violemment la tentation d'écriture sincère qui se présentait. J'ai vomi le besoin malade d'y sacrifier comme à un accès de mauvaise fièvre. La sincérité, valeur molle, s'acquitte à bon compte, exhibe sa fausse monnaie d'honnêteté, de transparence intellectuelle. J'ai su qu'écrire sincèrement n'approprie pas, rien de propre ne supporte, aucun support ne tolère, ne comprend ce mauvais sentiment, fabriqué par l'éducation morale, le milieu social, la culture. À l'œuvre dans la représentation, je cherche, j'exige une forme vraie, aussi vérace, exacte, aussi légitime que n'importe quelle autobiographie, récit, témoignage, supposé sincère. Une forme par laquelle le langage, la mémoire, élabore dans l'ordre romanesque une structure mentale, un texte capable de produire sa forme et de se souvenir de sa formation, expansible, maniable et plastique, que seul délimite sa cohérence et sa nécessité propre. Pour savoir à quoi m'en tenir quant à la vaine sincérité de l'écriture, il me fallait passer par cette expérience de la mort, mort d'une part de moi-même que celle de ma sœur et de mon père ont convoquée, attendre d'en être rendu à cette confusion mentale pour apprendre, humilier, mortifier, que j'ai à désespérer d'écrire, puis que je n'ai à espérer que d'écrire, d'être ce que j'écris entièrement et non le contraire, c'est-à-dire d'être une machine à écrire, d'assumer la machination littéraire, fiction volontaire. D'emblée mensongère, la sélection des faits sur lesquels s'amarre le récit l'empêche de dévier, et s'il avoisine un fait d'ombre, on taira celui-ci. On ne peut, on ne veut, on a honte, on ose l'aborder de peur que l'amnésie en ait tout à fait défiguré l'aspect. Au fond, on ne l'a jamais su, ou alors tellement tue qu'il est fossile dans sa coque, sa gangue solide de mémoire. L'atteindre exige une effraction irréparable. À le tirer, larve blême, de ses limbes, à l'exposer à la lumière crue, on risque de le détruire ou, pire, en faire un souvenir. Tous, vous gardez le souvenir de quelque chose. Tous, vous y retournez. Qu'est-ce que c'est? Dites-le-moi à vous. Qu'est-ce que c'est? Est-ce quelque chose de vivant? Quelque chose de mort? Je hais cette chose. Elle est cruelle. A-t-elle un visage et une voix, cette calamité? Voilà. Et alors, ce qui est aussi étonnant dans le quand on relit aujourd'hui dans La Pente du Toit, c'est justement cette machination dont tu parles là. Parce que le livre commence sur le fait que autrefois tu écrivais des romans. Et puis, je vais te repasser la parole après. Et puis, bah, voilà, ce qu'on a vu depuis ce livre, c'est justement les trois volumes de la trilogie romanesque dans la main dans la main du diable. Donc la machine. Et la question, une des questions que je me pose moi, c'est une machine qui est lancée à pleine vapeur comme ça, parce que c'est en 5 ans, hein, les trois volumes. Ça doit être difficile de la ralentir et de l'arrêter.
Alors, je lis, moi, un petit passage de Bertrand dans Les rouleaux du temps, qui, pour moi, est un extrait qui touche au plus profond de son travail d'écrivain, du corps de l'écrivain. Revient sans cesse la question de la main du scribe, la main qui écrit, qui tient cette main-là, y compris la main du manchot, la main coupée du père ou dans son livre La guerre sans fin. Et puis la question de la langue coupée, de la voix coupée, de la voix muette, de la langue de bois aussi. Toutes ces questions-là, de l'oralité, de ce qui se joue dans l'écriture, ce passage-là, pour moi, l'illustre, un des chapitres consacrés à Céline. Je vous lis, ça suffit. J'en avais éprouvé une vraie détresse, à naïvement vouloir lire un passage à mes amis, comme je faisais souvent aux amis de la bande ou ceux qui en resteraient. Je m'étais lancé à lire le passage où Bébert le chat se sauve du blocos du médecin nazi Arras à Berlin et déclenche depuis le parc où il chasse le rat toutes les sirènes de la ville. Donc, Céline. C'est vrai, j'aurais dû me méfier, fatigue, pas fatigue, la manie de Lily s'en foutre, que ce soit défendu, sortir coûte que coûte. Je suis sûre là qu'elle était sortie juste parce que c'était défendu et avec Bébert, j'attrape mes cannes. La vigue me suit, un escalier, le couloir, nous montons. Le tunnel, ah, je m'en doutais, ah, c'est du propre, le barouf de tout, plein l'air de sirène, ouh, peut-être un bombardement, j'entends pas de bombe, mais paf, taf, bataille de rue, peut-être des parachutistes, des vrais, pas des rigolos comme nous, ça doit tirer au fusil, tout près, j'appelle, j'avais commencé à lire. Et puis je m'étais arrêtée. Pardon, je lis mal. J'avais essayé de reprendre et encore reprendre, je me sentais devenir blanc comme une page vierge à m'étrangler, de ne pas savoir, à éprouver mon incapacité de leur faire entendre ce dont j'avais parlé, de les convaincre par l'exemple de la nécessité absolue d'y aller voir, comme je l'entendais pourtant en lecture silencieuse. Mais rien à faire, c'était impossible à lire à voix haute. Ça ne passait pas le barrage des dents. Ce qui coulait de source comme la lave et s'infiltrait jusque dans les pensées les plus intimes était imparlable. Impossible à oraliser. Langue parlée, tu parles. Elle est imparlable. À la vérité, la langue en fusion de Céline, elle vous altère en profondeur. Et rien ne peut vous en désaltérer. On y retourne et c'est une fameuse gorgée de poison qui ne vous lâche plus, pour citer Rimbaud, en enfer. Pleurant, je voyais de l'or et ne pus boire. Et si ce n'est des liqueurs fortes comme du métal bouillant, mais voilà, j'ai avalé une fameuse gorgée de poison. Ça se joue beaucoup trop en dedans. Ça s'imprime bien trop profondément pour se laisser ressortir comme ça. C'est de l'ordre de l'hallucination qui se partage mal. Il faudrait savoir remettre l'envers à l'endroit. On ne passe pas si facilement d'un côté l'autre de la langue. J'en étais estomaqué, vexé aussi. Et ça me mettait très mal à l'aise. Je voyais bien ce qu'en pensaient un ou deux de mes copains. Je tournais mal à trouver génial cette chapelure de mots, à virer littérature de faf, eux qui lisaient plutôt Tolkien, ou que sais-je encore de merveilleux. N'empêche que l'expérience vaut le détour. C'est une langue tellement écrite qu'elle ne se parle pas du tout. Essayez, vous verrez. Même Lucchini, qui l'a beaucoup lu sur scène, Céline, certes de façon cabotine, mais pas si mal à ma connaissance, il ne s'y est jamais risqué à lire Nord ou Rigaudon. Il y faudrait un travail dingue, je crois. Un travail presque aussi délirant, au fond, que celui de Céline sur sa page, pour obliger la langue à rendre la matière qu'elle abstrait sans cesse dans le discours. Pour parvenir à en faire sortir quelque chose d'autre, de furieusement autre que la parole commune, qui le dénonçait, lui, le monstre des lettres. C'est qu'il n'avait pas tellement le choix dans les années 50, Céline, le revenant. Il le savait, c'était exploser le sarcophage et passer le mur du son, ou bien rester à jamais au cimetière littéraire des collabos. C'était démontrer sa puissance ou rester monstre. Moi, ça me... Voilà, c'est sur ce ton-là, dans ce régime-là de la langue et puis de ce qu'est la lecture, dont témoigne ce livre tout entier, qui est, bon, allez, un manifeste, un acte de foi, de passion, hein, qui est contagieux, qui est généreux, qui est joyeux, vous verrez, qui est en même temps rageur, qui est grave, hein, sur cette question de lire, de ce qui se passe quand nous lisons. Et c'est en même temps une manière d'autoportrait de... Moi, en lecteur, comment je suis devenue un lecteur et comment on peut passer ça aux autres? Comment on peut être contagieux? Alors voilà, Berthe, en première question, tu veux bien nous expliquer le titre, pourquoi dans les rouleaux du temps et comment ça commence, la vague? Comment on se met à écrire ce livre?
Il se trouve que dans les rouleaux du temps, c'est un très très vieux titre. Et ça a été pendant longtemps le titre d'un manuscrit que j'écrivais avant de publier, il y a longtemps, et qui m'importait beaucoup, qui était autobiographique, et que je n'ai jamais fini, que j'ai dépecé pour écrire mon premier roman, Movis et Vaz, et donc qui est de toute façon définitivement enterré. Et pourtant, ce titre des rouleaux du temps a continué toujours de me hanter, je l'aime beaucoup. Pour moi, il a évidemment une multitude de significations, mais la première reste quand même l'image maritime. Et justement, le temps qui tourne, qui emporte dans ses rouleaux. Et alors, après, le fait est que quand j'ai commencé à rêver ce livre, c'est un livre des livres, avec une multitude de désirs. Le premier, c'était d'essayer de partir en quête de quelque chose, partant du principe que les livres qui nous ont vraiment marqués en ont gardé quelque chose et que d'une certaine manière ils en savent long sur nous, ils en savent plus long que nous, ils savent tout ce que nous ne voulons pas savoir, préférons ne pas savoir. Donc il y avait cette question de l'enquête. Après, comme j'ai été critique pendant des années, que je ne le suis plus, que je mène avec Christophe Kantchev, qui est d'ailleurs là, un séminaire sur la critique qui s'appelle « La critique impossible » avec un point d'interrogation. La question de la critique est évidemment sous-jacente dès lors que je voulais parler de livres. Et c'était aussi une volonté de témoigner. Hein, une volonté, je pense que l'importance que j'accorde à la phrase, la question qui entre d'emblée, qui est ce que nous fait la littérature. Qu'est-ce que ça nous fait vraiment? Plutôt que de parler de littérature comme on le fait aujourd'hui dans la presse, dans les médias, où en général cette question est évacuée. Donc vraiment la question du témoignage et du fait que la littérature est dans la pente du toit, que justement je repassais la journée dedans, en témoigne absolument de ça, de l'inextricable trame qui se joue entre la vie et la littérature, avec toutes les questions posées, puisque toi tu as grandi dans une famille où on ne devait pas lire, enfin où, en tout cas lire c'était prendre le risque de perdre son temps, et même beaucoup plus, ça pouvait être une prophétie malheureuse de se lancer dans la lecture. Et comment tout ça se trame au point qu'au fond, effectivement, nos vies, il y a cette idée, après je vais te repasser le micro, cette idée qu'au bout du compte, on laisse beaucoup de nous-mêmes dans les livres. Alors non seulement ce qu'on écrit, évidemment, on y laisse des choses en dépôt, des choses qu'on oublie, qu'on ne sait pas d'ailleurs, des choses qu'on y met à notre insu. Mais je crois que c'est vrai aussi des livres qui nous ont profondément marqués, qui ne sont pas forcément les livres les plus importants de la bibliothèque. Là, il se trouve que la plupart le sont, mais ça aurait pu. Enfin, il y avait dans le projet d'autres titres qui sont des livres dont je ne revendiquerai pas aujourd'hui la proximité, mais dont je sais à quel point ils m'ont marqué dans la vie.
Parce que tu dis aussi dans la préface qu'il faut lire, faudrait la lire tout entière, ça remplacerait notre échange, mais alors du coup on n'échangerait pas. Mais on lit comme on aime, comme on fait l'amour. Que la littérature se fasse à deux comme l'amour. Partant, qu'est-ce que le lecteur affirme du livre ? Nous en disent souvent plus long sur lui et sur les conditions matérielles et spirituelles dans lesquelles il se trouve que sur l'œuvre dont il parle. C'est que tout l'univers médiatique s'obstine à nier en traitant les livres comme des objets, etc. Donc cette idée-là qu'il y a la matière même, la, l'intensité physique et de l'instant et des corps et du désir de tout qui circule en nous au moment de lire, que lire est tout sauf quelque chose de dématérialisé et de d'ineffable et de purement intellectuel, je ne sais pas, mais où participe tout de soi, et particulièrement dans cette langue de tu es à toi, y compris avec la langue illisible dans laquelle on peut tomber, hein, dans cette espèce de dialogue profond et intime où il va se passer quelque chose en nous qui va bouleverser. Alors moi je voudrais dire que c'est, quand j'ai dit autoportrait tout à l'heure, c'est comment tu, de livre en livre que tu évoques, tu reconstruis les moments où tu les as lus, c'est-à-dire comment ça commence, quand est-ce qu'on devient lecteur, à l'adolescence, à tel âge de la vie où on a eu un enfant, où on n'en a pas encore eu, où on a aimé ou désaimé et vécu des deuils ou vécu des amours, enfin, ou vécu des histoires plus violentes, comme celles que tu évoques de la prison, du discours, de la loi qui vient... Bon, écraser et fracturer quelque chose de l'innocence etc. Et donc tout ça c'est lié à la lecture est liée à ça, c'est-à-dire les moments de ces moments où cette rencontre a lieu et qui ne peut pas être prédictible, prévisible, qui sont quelquefois même des accidents, mais qui sont tellement liés profondément, chacun doit le savoir ici, à des moments de nos vies. En quoi elles construisent nos vies, elles bâtissent littéralement nos vies. Donc on peut en évoquer un ou deux de ces livres, Aurélien et la prof de français. Par exemple, est-ce qu'on peut... Comment... Aragon, attendez. Oh, Aragon, que je ne sais pas, c'est toi qui vas en parler. Ou bien alors avec Hélène Cixous. Comment Hélène Cixous te tombe dessus, t'envahit et t'éblouit, enfin, et te met non pas à genoux, mais dans une espèce d'éblouissement de la découverte, de la révélation, littéralement. Je ne dis pas une mystique, mais il y a des révélations en littérature. Ou alors ce livre que moi j'ai cherché, que j'ai fini par trouver, puis que j'ai perdu, mais attendez, genre, je ne le trouve plus. Peut-être qu'il est ici, Le sang du ciel. Il faudrait que tu nous en parles de ça aussi. Comment un livre pareil te tombe dessus. En plus, un livre qu'on ne trouve plus. Bon, est-ce que tu peux parler de ça, comment on devient lecteur dans ces accidents de la vie qui font qu'on en est littéralement changé et construit. Voilà. On peut prendre ces exemples-là ou d'autres, parce que moi, c'est ce que j'ai retenu, mais pas forcément les tiens. Si, ils sont dans le livre.
Non, la difficulté, c'est que tu en parles tellement bien que... que je ne sais... Je ne sais quoi ajouter. Quiconque se livre, ne serait-ce que dans la rêverie, à cet exercice des livres qui l'ont profondément bouleversé et marqué, s'il est lecteur évidemment, va les retrouver et immédiatement ce mouvement se prend. Alors Aurélien, quand même, oui, en quelques mots, parce que Aurélien, ça commence par le livre, mais chronologiquement, c'est la première lecture que j'ai gardée parce que je ne voulais pas m'engager sur le terrain des lectures d'enfance, qui, je pense, sont peut-être plus normés, puis en tout cas, me semblent assez insaisissables. Et Aurélien, donc voilà, j'avais 14 ans, et il se trouve qu'à une rentrée scolaire, une prof de français a demandé aux élèves, ce qui me plaisait beaucoup, moi, je n'étais pas très bon élève, mais j'étais lecteur déjà beaucoup, que chacun dise quel était le livre le plus marquant qu'il avait lu récemment. Et j'étais le dernier à parler, puisque j'étais au fond. Et... avec beaucoup d'émotion, parce que je l'avais lu totalement ébloui. Et puis, c'est un roman d'amour, quand même, ce qui n'est pas rien au lycée, en seconde. J'avais cité Aurélien. Et là, je me suis fait fusiller, parce que c'était l'œuvre d'un communiste, réaliste socialiste, etc. Et ça a été littéralement un massacre du livre. Et je pense que ça n'a pu que renforcer... je l'ai relu, Aurélien. Ça n'a pu que renforcer l'attachement profond que j'avais trouvé dans le livre, d'autant qu'on a passé cette année-là une bonne partie de l'année à étudier Boris Vian, que je déteste depuis, et avec beaucoup, beaucoup d'injustice, j'en suis absolument conscient. Mais même si, malgré tout, le Vernon Sullivan, je suis beaucoup plus indulgent avec Vernon Sullivan, mais Boris Vian, par exemple, L'herbe rouge, etc., c'est insupportable d'ennui. Donc voilà, c'est aussi ce que je raconte comme ça pour montrer comment les choses se trament, s'en mêlent, et l'importance d'Aurélien. Et je lui en accorde une très très grande. En le relisant, j'étais très très surpris de l'importance qu'il a pu avoir à mon insu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est une question dont on pourra parler peut-être. Quelque chose dans la lecture, surtout à ces âges-là évidemment. Quelque chose qui est de l'ordre de la prophétie. Et c'est aussi une donnée, je crois, très très importante de la littérature, cette question de la prophétie, et de l'art en général d'ailleurs. Parce que prophétiser, on l'est sans cesse, et particulièrement quand on est lycéen, par exemple, on est sans cesse prophétisé. Tu seras médecin, tu seras je ne sais pas quoi, un homme, mon fils. Voilà, on est sans cesse dirigé vers un avenir qui reste totalement inconnu. Et qui est totalement figé sur des rails inamovibles. Bon, la littérature, ça permet aussi quand même, ça prophétise autrement. Et Aurélien, cette fascinante histoire d'amour. Après, le relisant aujourd'hui, j'ai le sentiment, mais le livre, il est dans une limite comme ça, un peu impudique. C'est plus facile de l'écrire que d'en parler, en fait. Mais le relisant aujourd'hui, j'ai vraiment eu le sentiment de lire. La prophétie de ce que j'ai pu vivre en termes de passion amoureuse. C'est-à-dire que j'ai, comme si, alors j'exagère sans doute un peu, mais pas tant que ça, comme si j'avais, à mon insu, reproduit, comme si j'avais été littéralement informé, au sens fort du terme forme, de l'amour dans ce livre-là. Et alors que je ne l'avais jamais relu depuis, tandis que j'ai lu beaucoup de choses d'Aragon, que par ailleurs, je pense de plus en plus un immense écrivain du XXe siècle, et injustement peu lu et méconnu, y compris dans les épisodes comme celui que je raconte. Alors, si aujourd'hui on n'en est plus là, malgré tout, Aragon paye, je trouve, incroyablement lourdement un engagement communiste, et par exemple, beaucoup plus lourdement que Céline. Et Aragon est vraiment un immense écrivain. Les communistes d'Aragon, qui est une saga qui de plusieurs milliers de pages, c'est un très, 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 très grand roman. Et là, on pourrait aussi parler d'ailleurs de cette dimension romanesque que tu renouvelles. Avec Dans la main du diable. Voilà, chez Aragon, elle est vraiment omniprésente, elle est plus vivante que nulle part ailleurs. Les plus vivantes que nulle part ailleurs, c'est peut-être très excessif, on se laisse emporter, mais elle est extraordinairement vivante chez Aragon, alors qu'elle l'est assez peu à cette époque de la littérature. Alors, est-ce que je parle, je continue mais... Non, juste deux mots sur Piotrowicz. Effectivement, c'est un très, très, très grang livre. Le sang du ciel. Et qui a été réédité l'année dernière par un tout petit éditeur qui l'a réédité uniquement parce que Gallimard le gardait dans son catalogue, mais se refusait à le rééditer. Il a obtenu les droits pour 3 ans et ça y est, Le sang du ciel va paraître dans la collection L'Imaginaire. Heureusement pas tout de suite, parce que normalement il aurait dû paraître tout de suite. C'est-à-dire qu'il laisse les droits à un petit éditeur comme ça, qui publie le livre, qui existe qu'à un cas, et 6 mois après, pouf, ils le mettent en imaginaire. Ils ont accepté de reculer, donc le livre paraîtra, je crois, l'année prochaine. C'est un livre tout à fait unique, parce que c'est un roman. C'est vraiment un roman. Un roman d'une liberté folle, formelle, et qui va jusqu'à la poésie, absolument. Il y a des pages qui sont découpées, ceux qui sont versifiées. Et qui est nourri de l'expérience de la Shoah. C'est la traversée de la Shoah. Et ça a été publié en France en 1961. C'est un livre qui, à l'époque, a eu des lecteurs. Il a été traduit, d'ailleurs, en anglais et en allemand, je crois. Et puis, petit à petit, Ravitch s'est suicidé en 81. Il n'a pas publié d'autres livres, à l'exception d'un petit carnet qui lui a valu beaucoup de tort, parce que ça s'appelle « Carnet d'un contre-révolutionnaire ». Et ce sont des choses vues en 68. Qui est d'ailleurs un livre passionnant, parce que Ravitch allait partout, il allait à l'Odéon, il allait à la Sorbonne, etc. Et en même temps, je crois que c'est un des rares témoignages, j'ai travaillé un petit peu sur 68 à un moment pour une fiction radiophonique, et c'est une des rares choses que j'ai trouvées où on avait la description de ce qui se passait et se disait, honnête, mais avec un point de vue qui était justement celui d'un contre-révolutionnaire. On met des guillemets parce que c'était dit avec une certaine forme d'humour. Mais du coup, c'est un document extraordinairement précieux. Mais bon, ça n'a rien à voir avec Le sang du ciel, c'est pas un chef-d'œuvre. Et Ravitch est mort en 81, et puis depuis, voilà, le livre est tombé dans l'oubli, si ce n'est, ça c'est la magie aussi des échanges, des vrais échanges qu'on peut avoir aussi entre lecteurs et donc entre écrivains et donc entre lecteurs, si ce n'est que moi j'ai vu son nom passer une fois dans une liste que Pierre Paché avait faite pour une librairie. On lui demandait quels étaient les 10 plus grands livres, ce genre d'exercice un peu stupide, mais et voilà, dans ces 10 livres, je connaissais les 9 autres, je ne sais plus lesquels c'était, mais celui-là m'avait étonné, je ne le connaissais pas. Et il se trouve que quelques jours après, allant voir Hélène Cixous, elle était en train de terminer un texte qui allait servir de préface à la première traduction polonaise du Sang du Ciel, puisque Le Sang du Ciel est écrit en français, en France et en français. Et donc elle m'en a parlé parce qu'elle l'avait connu, etc. Et là, je me suis procuré le livre le plus vite possible, parce qu'il était encore disponible chez Gallimard à l'époque, dans l'édition originale. Et voilà. Et après, donc, tout ça pour dire que les livres aussi vivent comme ça, parfois. Mais bon, c'est un chef-d'œuvre, Le Centre du Ciel, de toute façon. Et ça ne s'enterre pas si facilement, même s'il y a une difficulté à l'appréhender. Et sans doute qu'en 61, c'était tôt pour le lire et pour l'appréhender réellement. Aujourd'hui, c'est manifestement un très grand livre. C'est un livre qui est, c'est toujours un peu stupide de parler comme ça, mais qui est aussi important que si c'est un homme. C'est très différent, puisque c'est de la poésie et du roman. Et la question centrale de Ravitch, je crois, c'est comment sauver la poésie et comment se sauver avec la poésie.
Et qui est une question à la fois politique et métaphysique, c'est-à-dire dans le néant, l'horreur nazie, sauver la poésie, ça prend cette dimension-là. C'est-à-dire que dans la langue française, qui n'est pas sa langue, il arrive à pétrir dans cette matière-là qui résiste, un texte qui est d'une... mais qu'on lit de manière hallucinatoire, enfin, je sais pas qui est, hein, dans les images, les flashs visionnaires qui sont produits et qui ne sont jamais, qui ne cherchent jamais dans le réalisme ou la dimension documentaire. Alors, voilà comment ça circule. Grâce à toi, j'ai lu ce livre, je l'ai prêté, j'ai jamais su à qui je l'avais prêté, j'ai pas pu le récupérer pour, bon. Voilà. Et je voulais revenir sur ce que tu disais à l'instant de comment on devient lecteur, comment enfant à 14 ans, devant les diktats de l'école, devant l'académie, en quelque sorte, les listes, vous savez, les listes à lire, etc. Comment même, quand on n'a pas, et même dans les bibliothèques, je dirais, le classement des bibliothèques qui nous dirige vers les catégories, hein, qui font, c'est la grande question de l'organisation des bibliothèques, hein, de ce rêve à la fois borgésien ou de Warburg, de créer ce monde qui circule de manière occulte et de travers, et qui à la fois est un monde mental, l'univers intérieur de celui de l'auteur de la bibliothèque, et en même temps qui nous met à porter comme ça par des circuits improbables et imprévisibles. Mais ça opère dans nos vies, puisque ce que tu viens de raconter par Pierre Paché, par Hélène Cixous, à toi, etc. Comment circulent les livres qui nous libèrent justement de l'obligation de lire ou de l'interdit de lire? Quand nos parents nous disent, mais enfin, tu vas pas lire ces romans à l'eau de rose, ou Tolkien, ou je sais pas quoi, ou tu en es encore à lire Harry Potter, ou je sais pas, je vois bien avec mes petits enfants, ou bien lis ça ou ne lis pas ça. C'est-à-dire ce corset dans lequel intellectuel, social, enfin, dans lequel et critique de la critique aussi, qui nous invite si de manière si à lire les 3, les 10, qui vont émerger dans toute chaque rentrée, etc. Et avec le continent de ceux qu'on ne doit pas lire, de comment on devient un lecteur qui se libère, qui arrive à larguer les amarres et à trouver, à provoquer ou peut-être à accueillir tout simplement les rencontres qui se présentent, comme dans la vie, les gens à côté de qui on passe et dont on se dit 10 ans après, mais bon Dieu, comment ai-je pu ne pas pouvoir lire ça ou ne pas avoir connu celui-là, ne pas avoir vu ou celle-là, quel ami, quel amour ça pouvait être, quel amour je pouvais avoir pour lui, hein, de livres qui nous tombent des yeux. Et, bon. Donc je crois qu'il y a ça aussi dans ton livre, cette manière de désinhiber le lecteur qui vient avec et de lui dire, voilà, entrons dans les livres et on ne sait pas dans lesquels on entre et dans comment ça se passe, ce qui s'opère en nous, de cette opération qui n'est pas du Saint-Esprit, ni de la magie des fées, hein, mais qui fait qu'à un moment donné, on est, sinon de plein pied, du moins happé par quelque chose qui va nous embarquer. Et j'aime bien l'embarquement, hein, parce que tu as parlé des rouleaux, de ce mouvement de la mer, etc. Et alors, pour le coup, de ce qu'il y a de liquide, là, j'enchaîne là-dessus, parce que la métaphore s'y prête, à propos de Proust, dont tu dis qu'il est à la fois à la source du livre et à l'embouchure du livre, donc avec l'idée du fleuve. Et qu'est-ce que c'est que ce fleuve de la recherche qui vertèbre l'ensemble de ton livre?
Oui, c'est... C'est effectivement le livre le plus important. Enfin, le livre, après, il y a une gêne d'ailleurs à parler de livre parce que justement ça s'appelle Dans les rouleaux du temps. Évidemment, ça joue aussi avec le signifiant du rouleau, l'ancêtre du livre. Et puis, la recherche du temps perdu, ce sera toujours la recherche du temps perdu. sur une tablette. Donc après, livre, c'est ici une désignation qu'on évite difficilement, mais bon, parce que dire texte n'est pas non plus ne convient pas non plus en l'occurrence. Mais bon, Proust était de voilà, il a un statut à part dans tous ses livres, vraiment à part. Et j'ai toujours su que que ce serait la relecture, la quatrième relecture peut-être, mais la plus importante aussi dans le cadre de ce projet-là, c'est dans le cadre de rechercher quelque chose, de faire une forme d'enquête pour chercher on ne sait pas quoi dans les textes qui, par contre, dont on sait vraiment très bien qu'ils nous ont profondément marqués, formés, et de manière le plus souvent paradoxale par rapport à tout ce que tu viens de dire. Je crois que la littérature, l'art en général, est paradoxal, mais au sens, je déconstruis le terme, paradoxal, contre la doxa, c'est qu'on baigne, on baigne dans une doxa en permanence, on baigne dans la doxa, la doxa collective, la doxa du groupe auquel on appartient, et la littérature qui anime la langue et qui est de langage est justement un moyen de construire autre chose en marge de cette doxa, contre la doxa. Alors je reviens un peu en arrière, je suis un peu confus, pardon, mais l'exemple d'Aurélien m'intéressait aussi pour ça, parce que je crois que cette lecture d'Aurélien d'Aragon, la réaction de l'enseignante, des autres élèves qui étaient témoins de ça, mais qui évidemment n'avaient pas lu le livre, a été aussi un moment de prise de conscience, qui est que, de la même manière qu'on écrit toujours contre, on lit aussi toujours contre. Ce qui est une chose que je pense profondément. Alors, précisant les choses, parce qu'on écrit toujours contre, et contre, c'est aussi tout contre. Hein, c'est aussi avec, d'une certaine manière. Et on lit aussi contre, c'est-à-dire que justement, on lit contre parce qu'on est, dès lors qu'on est pris par une lecture, on est dans le paradoxe par rapport à ce qui nous entoure et l'information dont on est constitué. Et j'ai un peu perdu mon fil. Si, Proust. oui, Proust, c'est effectivement l'embouchure. Je le savais dès le départ, parce que c'est pour moi un livre à part. Encore une fois, j'ai d'ailleurs du mal avec ce mot livre. Il excède tous les autres. Il est plus important dans ma vie qu'aucun autre. Il a été une révélation totalement inouïe, une vraie expérience que j'ai refaite plusieurs fois. Mais alors, ce qui m'a vraiment étonné, et c'est là-dessus que le livre se termine en fait, c'est qu'à le relire dans la perspective du livre, j'y trouve, alors évidemment, dans La recherche du temps perdu, on trouve tellement de choses que c'est un étonnement relatif, mais j'y trouve justification du projet que je suis en train de terminer. C'est-à-dire que j'y trouve quelques passages que je cite qui vont vraiment dans la même direction et qui, à la limite, sont comme si c'était, encore une fois, à mon insu, cette notion d'insu est vraiment importante dans ce livre-là, comme si le projet lui-même, dans les rouleaux du temps, qui partage évidemment le mot de temps avec la recherche, était en fait le fruit de mes lectures de Proust. Comme si le livre non seulement ne pouvait que déboucher cette lecture-là qui est tout à fait ailleurs, mais en plus avait été trouvé sa source aussi dans cette lecture-là.
J'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à fait au début à propos des rouleaux du temps, qui est en fait le reste, et le reste qui a fermenté et fécondé et qui est reparti d'un livre que tu as écrit, puis désécrit ou pas écrit, auquel tu renonces. C'est-à-dire, en quoi écrire, mais peut-être tout autant lire, est une manière de renoncer ou de quelque chose qui s'achève en nous, mais dont on fait le pari, c'est la prophétie dont tu parles aussi, à notre insu, faisant le pari que ça n'est pas perdu, que rien ne se perd. Alors ça, c'est la question de la recherche, hein. Mais comment on est, en tant qu'écrivain, on écrit toujours un livre qui a eu l'air mort, fossilisé, renoncé, perdu au fond des tiroirs et peut-être même dont le manuscrit n'existe plus, mais qui encore résiste et réclame, et à travers d'autres livres, lui, entre-temps, nous revient, mais comme un revenu sur investissement de quelque chose qui s'est capitalisé. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que c'est cette... aussi d'une absence, hein, qu'on écrit sur une absence, sur à la fois tout le feuilleté des livres fantômes qu'on a lus et peut-être même de ceux qu'on n'a pas encore lus, qui sont là présents et qui rôdent autour. Bayard, je crois, a écrit des choses sur les livres, comment on parle des livres qu'on n'a pas lus, mais qui quand même font partie de cette espèce de nébuleuse imaginaire des titres, de ce qu'on en a pu entendre dire, etc. Donc comment ça se fabrique en lecture et en écriture d'être tout le temps dans ce travail de la langue là qui revient, dont tu as dit à quel point elle était, elle nous conformait, elle a au sens mais formée au sens intense du terme. Hein, comment nous sommes formés de langue, comment nous sommes des êtres, comment dire, que nous n'existons que parce que nous sommes des êtres de langue. Ça, je crois que en tant que critique aussi, peut-être que tu pourrais en parler. De comment, en tant que critique, tu vas chercher ça dans surtout dans cet essai, la verticalité, enfin, où tu défends contre une critique horizontale, celle des savoirs et de la doxa, hein, une verticalité de la, ce que tu opposes, de la connaissance, de ce que apporte le livre, de la connaissance, de connaître dans la langue. Je lance les choses, c'est pas clair ma question. Il n'y a pas de question. En fait, il n'y a pas de question. Mais moi, c'est ça qui me passionne dans tout ce que tu écris et qui est cohérent entre essai et roman. C'est tout le temps présent, ça. Ça
tu vois des choses? Oui, non, j'ai très envie de réagir à tout ça. Mais puis après, plus en échange, d'ailleurs, prendre des exemples de lire comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui avance, qui se cherche, mais... En écrivant dans les rouleaux du temps, je me sens plus à même d'affirmer quelque chose que effectivement je dis depuis longtemps, mais sans forcément avoir les moyens de faire autre chose que de l'affirmer, et qui est que la littérature relève purement de la connaissance et pas du savoir. Et alors après, il y a évidemment toute une... On peut, à partir de ces deux mots, faire beaucoup de chemin. Mais la connaissance, il y a une chose qui est certaine, c'est que la connaissance, c'est une présence. Ça nécessite une présence, on est au présent, on est au monde. Alors que le savoir, immédiatement, nous renvoie à quelque chose qu'on a pu construire, qui peut participer. Évidemment, les choses ne sont pas antinomiques, elles ne se combattent pas. Hein. Mais il y a une vraie différence entre savoir et connaissance, qu'on pourrait aussi, pour dire ça, repasser par les mystiques ou des tas de choses. Et comment est-ce que qu'est-ce que c'est que cette connaissance, ce que nous fait la littérature, c'est aussi ça, c'est rechercher dans les livres qui m'ont marqué des traces, tout d'un coup, essayer de saisir des traces comme ça, des moments qui toucheraient à la connaissance. Et... J'ai beaucoup employé déjà le mot, je ne veux pas insister outre mesure, mais cette notion d'insu m'intéresse d'autant plus que justement l'insu, je l'utilise de façon assez particulière. Disons que je fais de l'insu, l'insu serait au savoir ce que l'inconscient est à la conscience ou l'indicible au dire, c'est-à-dire quelque chose qui ne vient de nulle part ailleurs que du savoir, mais qui lui échappe et qui le déborde sans cesse. Et justement, voilà, le savoir, c'est la limite du savoir. Et plus le savoir est grand, plus l'insu est vaste aussi. Plus l'accès à la connaissance s'améliore, c'est ce que je dis là être caricatural, mais quelque chose de cet ordre-là. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui se construit de toute façon sans le chercher. Justement, dans la gratuité, la présence de la lecture, quand on lit, on est dans une forme de présence très étrange, mais absolue. On est totalement présent au monde quand on lit, comme dans l'amour ou comme dans le... On est dans ce temps-là, ce temps justement du présent, de la présence au monde, le monde comme présent, à tous les sens du terme. Mais je voulais, par rapport à tout ce que tu disais, dire deux choses, par exemple, sur le... Puisqu'on est en échange, et sur cet échange-là, comment il se construit, on se lit mutuellement depuis maintenant longtemps, et comment voilà, je viens de finir un manuscrit, et le finissant, j'ai lu donc ton dernier livre paru, même si ce n'est pas le dernier écrit, qui est Photo de famille, un roman de l'album, et il se trouve que voilà, dans mon manuscrit, il y a tout d'un coup une métaphore qui est venue comme ça de la chambre noire où se révèle quelque chose et les choses se trament comme ça aussi de texte à texte où je pourrais parler aussi bien de... Parce que pour moi, ça a été vraiment une lecture très importante dans La main du diable. Vraiment très importante parce que j'avais beaucoup de respect et d'admiration pour l'œuvre d'Anne-Marie et de considération à tous les sens, au meilleur sens du terme. Et puis tout d'un coup, elle a déboulé comme ça en réinventant quelque chose du romanesque et du feuilleton qu'on n'avait pas le droit de faire. Enfin, quelque chose qui était tout à fait antinomique avec toute la doxa, justement, on va retrouver encore une fois la doxa, toute la doxa littéraire sur ce que ce serait que écrire non pas des romans ou de la machine à divertissement, mais écrire en ayant le désir de s'inscrire dans la littérature. Voilà. Et elle a fait ça avec une liberté et une puissance totalement inouïe qui compte vraiment pour moi dans les romans que j'ai écrits depuis. Alors, je ne saurais pas exactement dire comment, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, parce que vous vous souvenez peut-être de la première phrase, qui de nous se souvient d'avoir aperçu ce jour-là deux femmes solitaires dans une allée du Luxembourg, indifférentes à la menace d'averse, immobiles parmi les statues. Et puis surtout, ce que j'adore, c'est les premières répliques qui sont plus ou moins parsemées d'alexandrins par instant. Donc, tant à Gotha, qu'allez-vous imaginer vous expulser, on y mettrait moins de façon, je vous assure. C'est, bon, voilà, on est immédiatement, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun, c'est on est dans la question de la représentation, vraiment, et de façon, encore une fois, paradoxale. Et voilà, moi, j'en profite, je tenais à le dire, ça a vraiment, je me suis vraiment posé des questions sur ce que c'est qu'écrire un roman en ayant, puisque quand même c'est ce qu'on a pour beaucoup d'entre nous, une prétention littéraire. Voilà.
Mais merci d'avoir souligné ça, parce que la question initiale, qui de nous se souvient avoir vu, etc., nous les avons tous vus, le couple de la tante et de l'orpheline, c'est quand même ces stéréotypes universels et fondamentaux du mélodrame, hein, de tout le roman populaire du 19e siècle, en effet. Et même la manière, merci pour le... Parce que c'est des choses que je me dis, le lecteur va le voir, pas le voir. S'il ne voit pas, ce n'est pas grave. Et y compris tout ce qui peut circuler de références au cinéma, d'hommages au passage à des poètes, à des cinéastes, à des photographes, à des peintres, en fait, etc. Bon, on met pas des notes en bas de page dans un roman, et le roman n'a pas de leçon à donner, de mon point de vue, j'entends de manière explicite, de donner de leçons d'histoire, de donner de leçons d'esthétique. Il a même pas de leçon à donner sur le roman. Il faut que ce soit dans un implicite où le lecteur va à travers, dans le feuilleté du texte, entendre s'il se passe quelque chose de cet ordre-là, si le roman lui parle de ça aussi en dehors de l'intrigue, etc., des conventions romanesques ou non. Bon, donc. Merci d'être ce lecteur-là, mais je n'en doutais pas. Mais voilà, réciproquement, moi, quand je lis à travers ma grille à moi, j'entends les rouleaux du temps avant même d'ouvrir le livre de Bertrand. Moi, j'ai pensé à la photo, c'est-à-dire au rouleau. Vous allez même dire que ça aussi, c'est quelque chose d'un peu archaïque, n'est-ce pas ? Comme peut-être le bibliophile aujourd'hui, dans le monde des tablettes, etc. C'est un dinosaure. Mais moi, je pense en argentique, c'est à la chambre noire, à l'appareil classique, et qui vient d'ailleurs du fond des temps, cette grande question de la chambre noir et du sténopé, et de la question de la lumière écrite, pour moi, est une analogie, pas simplement de décorative, elle n'est pas décorative, hein, avec l'écriture, et avec la mémoire corporelle, et organique, je dirais, y compris le ventre, hein, avec lequel on écrit, avec l'œil du ventre, le nombril avec lequel on écrit. Bon, mais j'ai lu les rouleaux du temps, moi j'ai lu les rouleaux de gélatine, les rouleaux de manière latente, enferme l'image lumineuse avant qu'une révélation, une deuxième nuit est nécessaire, avant que cette image-là, on est en train de perdre, rien ne se perd. Les physiciens, là où je ne sais plus quoi, le disaient, qui c'est Lavoisier, je ne sais plus qui, rien ne se perd, rien ne se crée. Moi, je trouve que les nouveaux outils ne font pas... Bon, les nouveaux outils ne tuent pas les anciens, c'est des nouvelles fonctions et c'est tout. Je ne crois pas que ça disparaisse, ça, parce qu'il y a là un imaginaire et un processus, un dispositif avec la chambre noire et avec le négatif argentique, la latence, ce temps retard, n'est-ce pas, qui a à voir avec la mémoire longue, avec la mémoire, avec l'insu dont tu parlais, hein, et de cette remontée à la lumière, et quelle lumière parfois aveuglante, au point qu'on n'y voit plus, et que l'évident dont tu parlais, puisque comme Hélène Cixous, je crois, c'est votre grande chose commune, hein, que vous interrogez les mots, ce que les mots veulent dire dans leur étymologie, dans leur histoire lointaine de mots venus des langues et pétris de toutes les langues anciennes, et y compris les langues mortes, qui sont encore vivantes au travail dans la langue, l'évident, enfin, tu en fais un très bel, tu peux en parler mieux que moi, hein, de ce qui n'est plus, c'est pas la peine d'y aller voir, puisque et ça évite en même temps l'œil qui ne verra pas, puisque c'est évident, hein, et que bon, ça rejoint ce que tu disais. Mais justement, moi j'ai lu ça à travers, je me suis rentrée dans les rouleaux du temps en pensant que tous ces livres-là, ils étaient l'empreinte digitale, presque comme en argentique, de des choses qui s'étaient déposées en toi, en nous des livres, les tiens, les miens. Il y en a que Kerouac. Je me suis dit, comment il peut aimer Kerouac? Bon, attends, mais comment peut-on Kerouac que... Et alors, comment je l'ai lu? Et moi, ça me renvoie, hein, remontant dans les rouleaux alors de ma gélatine. Bon, à moi, qu'est-ce que j'étais comme lectrice pour tomber dans Kerouac, me dire, non, mec, il me donnait des boutons. Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est. Bon, etc. Bon, mais toi, tu as d'autres, hein, Borisian, ou d'autres, mais il y en a d'autres de grands et de plus nobles, et d'autres ignobles, enfin, moins nobles que, qu'on nous désigne comme tels, qui ont pu nous donner des boutons comme ça. Bon, mais en fait, cette réconciliation, justement, avec peut-être des choses qu'on a pu. En les relisant, en remontant dans cette gélatine-là, des traces qu'ont laissées les lectures. Qu'est-ce que c'est qu'une relecture? Relire une deuxième fois, repasser sur le lecteur que nous avons été, autant et sinon plus que sur le livre qu'on est en train de lire. Et la recherche, c'est peut-être quelque chose comme ça pour toi, de lire et de relire de ces livres qu'on ne lâche pas de notre vie entière, qu'on ne finira pas de lire. Hein, non?
Mais effectivement, j'avais sauté une étape donc, quand je parlais de mon manuscrit ou cette image de la chambre noire. C'est tout, et puis de la photo de famille d'ailleurs. Parce que l'étape que j'avais sautée, c'est qu'effectivement, pendant que je le lisais, tu m'as envoyé une lettre généreuse, comme toujours, et magnifique, où tu parlais de cette interprétation des rouleaux du temps qui, moi, ne m'était jamais venue à l'idée. Mais jamais. Et donc voilà, après, c'est justement. Et en même temps, qui est d'une justesse évidente, dès que c'est formulé. Et donc voilà, après, tout ça travaille comme ça. Bon, la recherche, je me sens un peu sec là pour en parler comme ça. Mais c'est justement. Si, pour moi, c'est un livre à nul autre comparable, c'est parce que c'est par excellence un livre de la connaissance. Et un livre de la connaissance au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire au sens aussi bien que lui donnaient justement les mystiques autrefois, mais d'une connaissance sous un ciel vide. C'est-à-dire que c'est un livre profondément athée, mais qui pour autant n'a aucune référence religieuse d'aucune sorte, mais qui pour autant ne veut pas lâcher cette question de la connaissance. Et il réussit, comme vous le savez tous, de façon tellement extraordinaire que de toute façon, il est justement, parce qu'il y a cette fluidité, cette chose qui coule de source chez lui, qui est à la fois inépuisable et puis dont, si tout d'un coup on vous demande d'en parler, vous laisse un peu sec, parce que ce n'est pas évident.
Est-ce qu'on s'arrête là? On aurait de notre échange. L'heure tourne. Peut-être qu'il peut y avoir des échanges aussi avec vous, des questions qui peuvent se poser. Oui, parce que celui-là ne va pas circuler.
Tout simplement, vous avez fait un rapprochement entre l'athéisme et la connaissance. Je n'ai pas compris ce que vous avez voulu dire.
Non, ce que je veux dire, c'est que... évidemment, c'est trop rapide, c'est beaucoup trop court. C'est ce que j'essaye de développer dans le texte consacré à Proust. Que cette connaissance d'être au monde, du présent du monde, qui a longtemps été... quasiment la propriété, la chasse gardée du religieux, nous fait défaut dans un monde dans un monde sans croyance, qui est le mien, qui est celui d'évidence de Proust. Et voilà, si c'est un livre immense, c'est parce que les deux choses se conjuguent, et ce qui est exceptionnel.
Je peux lire un petit extrait là où, bon. J'ai dit déjà que la force à la recherche du temps perdu vient aussi de l'absence radicale de Dieu dans la cosmogonie qu'elle élabore. Elle est l'œuvre d'un homme foncièrement radicalement athée, mais qui n'a pas renoncé à la joie mystique, qui refuse de tirer un trait sur l'instinct de ciel qui est en nous, Mallarmé, qui se trouvait en l'homme bien avant la naissance du Dieu monothéiste, quand ce dernier fut la conséquence et non pas la cause de cet instinct de ciel, et qui demeure en nous après sa mort. Œuvre d'un mystique sans Dieu, entre tous, l'expression est de Georges Bataille. On pourrait dire que la dimension la plus fascinante dans la recherche du temps perdu est celle-ci. Il réussit à retrouver une quête sublime de la joie, non pas après la mort de Dieu, mais après son deuil. Si je lâche la bride à mes phrases, je peux même avancer ceci. La recherche concrétise le projet nietzschéen de dépasser la mort de Dieu, puisque le surhomme nietzschéen n'était assurément pas celui qui devait prendre la place de Dieu ou d'un Dieu quel qu'il soit, mais celui qui devait se libérer de l'idée même de Dieu pour enfin toucher terre, pour retrouver le sens de la terre. Je vous assure que le premier chapitre, Apologie de Socrate, est comment un enfant, enfin un petit jeune homme, s'embarque dans un texte quand même un des plus hauts de la philosophie, n'est-ce pas, qui parle au présent actuel, comme tu dis, dans une actualité de sa vie de jeune homme, de cette comme sans doute jamais à l'école. Et je n'ai rien contre l'école, attendez, c'est haute mission, on le sait, de transmission, etc., etc. Mais comment je n'ai jamais entendu un professeur de philosophie m'initier, m'inviter, m'introduire, me transmettre ce que pourrait être une lecture de Platon. De l'intimidation que j'ai pu avoir de la philo, en même temps, bon, celle de l'école, quoi. Là, tout d'un coup, qui devient une langue humaine, qui me parle maintenant, actuellement. Il faut lire ça comment on commence par, vous disiez Lucrèce, non, ça commence par Socrate.
Je voudrais, Bertrand, te demander si dans les mystiques que vous évoquez, par exemple sur cette notion d'insu qui est très présente et qui vous est chère, on peut entendre aussi l'inconnaissance d'un saint Jean de la Croix, par exemple, qui va dans ce savoir qui ne se sait pas, etc. Je ne sais pas si ça c'est une allusion, mais elle est peut-être, elle est certainement trop étroite, je veux dire. Et puis je voudrais rajouter quelque chose sur le moment que vous venez de nous donner, puisque on travaille à la Maison des Écrivains avec les administrateurs sur cette question de rencontre entre des écrivains, avec des écrivains qu'on présente un peu partout. Et au fond, je me dis que puisqu'on n'est pas surtout pas dans l'événementiel, et je crois que Patrick Bazin il pensait les choses comme cela aussi. De plus en plus, j'ai envie de dire que lorsqu'on donne la possibilité à des écrivains de produire une parole en public, c'est vraiment pour être ensemble dans une dynamique de recherche. Alors on a bien compris que vous lisiez et que vous étiez dans une estime littéraire et une amitié réciproque, mais là, on a aussi, enfin moi j'ai entendu aussi de l'insu, une parole qui n'a pas encore été dite entre vous. Donc je vous remercie pour ça. Voilà.
À la première question, oui, mais justement, chez Proust, Proust travaille la représentation, c'est-à-dire que justement, il n'y a pas de transcendance à la représentation. Donc, c'est évidemment une différence majeure. Mais la quête a évidemment ce point commun. Merci beaucoup, Anne-Marie.
Je sais pas, j'ai envie de conclure sur ce que tu as mis en incipit, là, qui est de Pessoa, de Pêche. Bon, il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre pour voir les champs et la rivière. Il ne suffit pas de n'être pas aveugle pour voir les arbres et les fleurs. Il faut également n'avoir aucune philosophie. Avec la philosophie, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a que des idées. Il n'y a que chacun d'entre nous tel une cave. Il n'y a qu'une fenêtre fermée, tout l'univers à l'extérieur. Et le rêve de ce qu'on pourrait voir si la fenêtre s'ouvrait et qui jamais n'est ce qu'on voit quand la fenêtre s'ouvre. C'est Alberto Cairo, hein, un des multiples noms de Pessoa. Pour conclure, merci. Merci.